Bienvenue dans Maison Mère, un podcast qui vous raconte des histoires où la mère prend toute la place.
Nous avons découvert Claude Bruder à l'écran, dans un court-métrage sobrement intitulé Mère. Il n'y a aucun mot dans ce film, juste un homme qui nage jusqu'à une île, loin de tout. Et puis la houle se lève, le jour décline et on suffoque avec lui.
Ce film a été réalisé par le frère jumeau de Claude Bruder, qui s'appelle Olivier. Pendant le tournage, Claude a passé environ 3 heures par jour dans une eau à 12 degrés. Il dit qu'il a souvent été proche de la syncope. C'est à ce prix que ce film nous saisit avec tant de force.
Claude n'est pas comédien. Il a 49 ans et parmi tous les gens que nous rencontrons pour ce podcast, c'est certainement lui qui se confronte le plus directement à la mer.
Dans la Bretagne, d'où moi je viens, il y avait deux types de professions, soit on est de la terre, soit on est de la mer, et donc deux types de rapport au monde en fait. Moi je viens d'un monde plutôt terrien, agricole, et donc la mer on la voyait surtout pendant les vacances d'été, soit de chez nous on allait à vélo à la plage, où on passait aussi régulièrement des temps, des semaines au camping, à Port-Sévigné notamment, qui est un très bel endroit à Lampol-Porzel. Donc l'été, on passait tout notre temps dans l'eau, sans sentir spécialement la fraîcheur de l'eau, la fraîcheur de la mer, on y était bien. À la plage, on était en famille, mais lorsqu'on allait se baigner, on était loin des parents, on trouvait des endroits pour plonger, il y avait de la découverte, découvrir aussi les fonds, éprouver la marée qui monte et qui descend. Donc le changement de paysage sur la plage et dans l'eau et sur les rochers d'où on pouvait plonger ou pas, selon le niveau de l'eau, de la mer. Et voilà, donc c'est un rapport très ancien et vraiment lié depuis toujours au plaisir. Dans ce monde-là aussi, dans la Bretagne traditionnelle, en fait, on était au niveau des activités sportives, on avait le choix entre le football, le vélo, le judo, mais assez peu la natation. Et d'ailleurs, nous, on vivait très loin de Brest, où il y avait la piscine. Et dès qu'on a eu l'occasion de débuter la natation, c'est-à-dire quand on était en pension ici au lycée Charles de Foucault à Brest, on a débuté la natation tous les mercredis après-midi. Et puis, pendant les études supérieures, moi, j'ai commencé à faire du triathlon. Et puis, après avoir terminé ce que je voulais faire en triathlon, j'ai commencé à ne plus faire que de la natation. Cette pratique de la natation en mer, je l'ai découverte avec mon frère Olivier. Et puis ensuite, la pratique de ce qui se rapproche de l'eau libre, c'est-à-dire la pratique de la natation longue et sportive, éventuellement en compétition en mer, donc sur des longues distances. Je l'ai débuté lorsque je faisais du triathlon et puis ensuite plus particulièrement avec un ami qui s'appelle Pierre et qui... une année a eu tout d'un coup une idée folle qui était de rejoindre l'archipel des Glénans à la pointe de Trévignon à la nage. Voilà, donc c'est une aventure qu'il m'a proposée. Je dis aventure parce que c'était à l'époque, ça nous semblait tellement long, unique comme expérience que c'était effectivement une réelle aventure. Ça fait 12 kilomètres entre l'île de Pinfrette et la pointe de Trévignon. 12 km, moi je nage à peu près à 4 km/h. Ça fait au minimum 3 heures dans l'eau. Comme c'était une première expérience, on est parti au mauvais moment, on avait mal étudié la marée, on avait un fort courant contraire au départ. Et donc on y a vraiment passé du temps. En fait, on a passé 4 heures dans l'eau. Vraiment, on ne faisait qu'un avec la mer. Par exemple, à un moment, des mouettes sont venues nous, nous manger les pieds. Donc, il a fallu s'en débarrasser. À un autre moment, on a croisé deux dauphins qui nageaient à peu près à 25-50 mètres de nous. On les voyait vraiment bien. Et pour moi, c'était le début, en fait, d'une relation vraiment très étroite et assidue avec la mer. On n'a besoin d'aucun outil, d'aucun appareil. Le bonnet, les lunettes. Et on y va, on se lance. On se lance dans un environnement qui malgré tout, même si on l'a bien étudié, même si on a bien étudié les courants, même si on a bien étudié les marées pour partir au bon moment, même si on l'a bien regardé en superficie avant d'y plonger, ben on ne le connaît pas. En tout cas, moi, je ne suis pas pêcheur, je ne fais pas de chasse sous-marine. Tout ce qui m'intéressait, c'est la natation et on nage fréquemment dans des environnements dans lesquels il y a peu de visibilité. Ici en Bretagne, la visibilité sous l'eau n'est pas extraordinaire. Et donc, on nage au-dessus d'un espace qui est inconnu. Pendant qu'on nage, il y a aussi une perte totale de repères spatio-temporels. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette traversée entre Pimfret et Trévignon, quand on se trouve à peu près à mi-chemin, donc 6 km, comme on a la tête au niveau de la surface de l'eau, eh bien, la portée du regard est très réduite. Le regard ne porte pas loin. Et donc, à un moment, on ne sait plus à quelle distance on est du départ, c'est-à-dire à quelle distance on a nagé, et à quelle distance on est de l'arrivée, puisqu'on ne voit plus que de la mer. Grande impression de sérénité. Et puis en même temps, d'inquiétude. En tout cas, l'inquiétude, on peut la ressentir si les conditions de mer changent, si on se retrouve dans une forte houle, dans un vent qui monte, ce qui m'est arrivé aussi à plusieurs reprises. Là, il peut y avoir une inquiétude, puisqu'on évalue mal la distance qui nous sépare de la terre et donc du refuge. Mais aussi une grande sérénité, bien fréquemment, puisqu'on se retrouve seul avec soi-même. On ne peut échanger avec personne, parce que si on parle, personne ne nous entend. Et on peut, à ce moment-là, soit laisser partir son esprit, donc c'est un dépaysement spirituel, soit se concentrer sur la nage, les mouvements. Auquel cas, on oublie vraiment tout. Et j'ai des amis qui pratiquent du zen, le zazen, que je ne pratique pas du tout, mais l'expérience, les sensations, ce dont ils me parlent, me font penser vraiment à ce que je retrouve dans la natation, sur des longues distances, des temps indéfinis, un oubli de soi. Tout ça explique pourquoi, en tout cas moi je recherche à ce point-là cette expérience, pourquoi aussi c'est un tel dépaysement et puis une expérience totale et vraiment entière, c'est-à-dire un bouleversement des sens, un exercice physique incroyable. Dans cet exercice-là, l'exercice des muscles, du corps, et puis aussi la résistance au froid, donc l'expérience du froid, qui est une expérience très forte aussi, et qui explique que même après, en étant sorti de l'eau, après avoir nagé une heure ou deux heures en maillot de bain, l'expérience continue par la sensation de froid, les tremblements, et je pense qu'il faudrait l'étudier au niveau des hormones, mais on a une très forte, doit y avoir une très forte émission d'adrénaline quand on sort de l'eau, en fait, en gros, même si on a très froid, on se sent un peu Superman. Voilà.
Est-ce que parfois, tu as parlé de dauphins, d'oiseaux, de phoques, est-ce qu'on se sent un peu comme un intrus ?
Non, moi je trouve au contraire qu'on a l'impression d'y trouver une forme de place, une place dans le monde. Ce qui est certain, c'est que comparativement aux phoques ou aux dauphins, on se sent très très lent. Et donc, comme toute activité en lien avec la nature, on se sent avant tout humble. Et tout petit, mais aussi pas seulement, on se sent surtout comme faisant vraiment partie de cet environnement-là, sans crainte. En même temps, y a vraiment une volonté, je pense que c'est quelque chose que ressentent aussi les surfeurs ou les véliplanchistes, par exemple les funboarders, d'aller se mesurer aux éléments. On acquiert assez vite une sorte de sentiment d'invincibilité, je trouve. Et donc, on a envie, même dans toutes les conditions, d'aller se confronter aux éléments, au froid, au vent, à la houle. Moi, par exemple, souvent, quand je longe la mer, j'habitais longtemps à Douarnenez, donc on est tout le temps face à la mer. Et quand je longe la mer, quand j'observe la mer, quotidiennement, je vois qu'elle change. Et fréquemment, dans certaines conditions, je me dis, tiens, j'aimerais bien qu'il y ait un nageur là au milieu de tout ça, de cette tempête éventuellement, de cette houle. Et ce nageur-là, je voudrais que ça soit moi. Et donc, et à ce moment-là, j'y vais, je me jette à l'eau, parce qu'il y a en fait, il y a cette envie-là, juste, de se jeter à l'eau sans aucun calcul. On arrive, on met le maillot de bain, les lunettes, le bonnet, et on se lance. Dès que j'ai plongé, voilà, je suis en... La mer me saisit, le froid me saisit, et là, je pars à fond, je nage à fond, jusqu'à ce que le froid ait un petit peu anesthésié mes muscles et mon corps, et à ce moment-là, je peux trouver un rythme de natation plus, ou de nage plus tranquille. Plus tranquille, plus posé. Et puis là commence comme une sorte de randonnée. Voilà, moi, je rapproche ça à une randonnée, quelqu'un qui va marcher pour un temps indéfini. Les intérêts en fait de la natation telle que je la pratique, c'est de rejoindre des îles au continent. Donc tout à l'heure je parlais de ce qu'on avait fait avec l'ami Pierre là, c'était de Pinfret à la pointe de Trévignon. Bon, c'est quelque chose qu'on a fait très fréquemment ensuite, dans le même esprit ou non, le même type d'expérience. J'avais au Mexique, donc à Mazatlán, c'est une ville en fait de la côte ouest, au large de laquelle il y a des îles. J'avais pu rejoindre ces îles aussi à la nage et arriver en fait sur un territoire vierge de toute construction, avec une vie vraiment sauvage. En fait, ce sont deux îles. Du rivage, on a l'impression qu'elles sont séparées par la mer. Mais quand on y arrive, on constate en fait qu'elles sont jointes par une toute petite plage sur laquelle il y a des rochers. Et quand on arrive, en fait, ça grouille. Il y a des crabes partout. Donc, ça part dans tous les sens. Des petits crabes gris qui ont la même couleur que la roche. On voit des rapaces donc planer au-dessus de nous. Moi, c'est la vie sauvage. Il m'est arrivé une petite expérience en fait là-bas, petite aventure la dernière fois que j'y suis allé, c'était au mois de novembre 2018. C'était quelques jours avant un ouragan et l'espace entre la plage de Mazatlán et les îles était la mer était tout à fait plate. Et quand je suis arrivé sur les îles, de l'autre côté en fait, il y avait une houle plus forte et j'avais décidé de faire le tour en fait d'une des îles, ce que je n'avais jamais fait. J'ai traversé cet espace qui séparait les deux îles à pied. Je suis allé de l'autre côté Et là, en fait, la houle était réellement plus forte. Et alors que j'étais en train d'étudier l'endroit où j'allais me jeter à l'eau, parce qu'en fait, ça n'est pas une plage, tout le rivage est couvert de roches, de rochers, qui sont même couverts d'oursins. Donc, je cherchais l'endroit pour me mettre à l'eau, en faisant attention à la houle, mais malgré mes préventions, une vague est arrivée, qui m'a jeté à l'eau. Et donc, puisque j'y étais, j'ai commencé à nager pour faire le tour de cette île-là. Et passé un cap, en fait, je me suis rendu compte que l'île était très très longue et qu'il me faudrait probablement plusieurs heures pour en faire le tour. Sauf que la houle avait forci et qu'il y avait vraiment des oursins partout. Et donc j'ai mis une heure à trouver un endroit pour rejoindre le rivage en fait en remontant sur les rochers. Et finalement, j'ai fini par être projeté contre une roche couverte d'oursins par une vague, et puis à m'accrocher et à sortir. Et là, donc, je suis sorti, et c'était superbe. Il y avait des crabes partout, ça grouillait, les crabes filaient dans tous les sens. Et j'étais vraiment content d'être sorti de l'eau, de profiter de l'instant. Et donc, j'étais couvert de piques d'oursins. Et donc, ensuite, il a fallu que je rejoigne de l'autre côté de l'île pour retourner sur les rivages de Mazatlán, nager encore à peu près une heure. Ouais, c'était une expérience extraordinaire. Après, je suis allé chez le médecin, j'ai commencé à enlever avec une pince à épiler les piques d'oursin. Le médecin m'a donné un petit antibiotique et puis, voilà, ça s'est passé comme ça.
Ça t'arrive souvent de nager dans des endroits que tu connais pas du tout et où tu n'as pas pu avoir de renseignements sur la faune, sur les courants
Ça arrive assez régulièrement, ouais. Comme le ferait n'importe qui à ma place, j'observe en fait la mer avant d'y aller. J'essaie d'identifier les courants. Si je peux, je questionne les personnes, les riverains. Ou les locaux, et je leur demande s'il y a des requins, ce genre de choses. Et puis si les réponses sont assez rassurantes, j'y vais. La natation, en fait, dans ce cadre-là, ça sublime mon quotidien et puis les voyages. Ça me permet d'associer à chaque endroit où je suis allé une expérience très forte. Et donc, ensuite... la représentation de paysages mentaux inhabituels, exotiques, et pouvoir se replonger dans ces paysages en fait au quotidien, c'est vraiment une chance. Donc finalement la natation ou nager en mer comme ça, mais je pense pour tous ceux qui la pratiquent, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, qui auquel on se rattache ou auquel on peut revenir en permanence, c'est-à-dire en le pratiquant d'une part, et puis d'autre part en se souvenant des très bonnes expériences vécues.
Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode de Maison Mère.
Le film Mère, réalisé par Olivier Bruder, dans lequel vous pourrez voir Claude nager dans l'archipel de Molène, est accessible en ligne. Rendez-vous sur la page de Maison Mère pour en savoir plus.
Un podcast de Virginie de Roquigny et Anouk Edmond. Habillage sonore, Martin Delafosse.